Bonsoir à tous. Bienvenue au Centre Pompidou, dans le cadre de la programmation culturelle de la Bibliothèque publique d'information. Alors, la BPI est très heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle rencontre du cycle « Le monde sur un fil », organisée en partenariat avec la revue Esprit, afin de débattre des grands sujets de l'actualité internationale et de les mettre en perspective. Alors, nous avions commencé la saison avec un débat sur l'élection américaine que certains d'entre vous avaient suivi et vous pouvez toujours la retrouver en ligne sur le replay. Et nous poursuivons aujourd'hui sur le thème de la justice internationale. Alors, un grand merci à nos invités et à Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction de la revue Esprit, avec qui nous préparons ces rencontres. Très bonne soirée.
Bonsoir et bienvenue à tous. C'est mon tour de remercier la Bibliothèque publique d'information d'accueillir ce nouveau débat. On est très heureux que cette série de rencontres co-organisées par la revue Esprit et la BPI se poursuive. Et merci à Fanny Lecor de son petit mot d'introduction. Alors, il est difficile évidemment de ne pas commencer par évoquer la date de notre rencontre, le 7 octobre, puisqu'elle marque l'année qui s'est écoulée depuis les massacres perpétrés par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023, et que c'est une date qui est maintenant entrée dans notre conscience collective, peut-être aux côtés de quelques dates tristement mémorables, le 11 septembre 2001, ou en tout cas pour ce qui est de la France, le 13 novembre 2015. Sans compter que les événements du 7 octobre ont déclenché une année de guerre terriblement destructrice, à Gaza d'abord, et que la guerre s'étend maintenant au Liban, et que je crois que nous avons tous à l'esprit, au moment de démarrer cette discussion, le risque que l'escalade s'aggrave et s'accélère encore, si l'affrontement jusqu'ici latent entre Israël et l'Iran devait tourner au conflit ouvert. Donc notre discussion de ce soir, évidemment, ne peut se dérouler sans tenir compte de ce contexte international très lourd. Nous l'avons tous à l'esprit, je l'ai dit. Mais notre idée était également d'essayer de faire des liens entre cette situation immédiate et d'autres conflits caractéristiques de notre époque, en remontant dans le temps, mais aussi en élargissant la focale géographique. Et je pense évidemment à l'Ukraine, à la guerre en Syrie, ou encore au conflit qui se déroule aujourd'hui au Soudan, dont on parle très peu, alors qu'il est lui aussi terriblement meurtrier. Et pour tout cela, fort heureusement, nous pouvons nous appuyer sur l'expérience et la réflexion au long cours de nos trois invités qui sont, on peut dire, spécialistes à différents titres et chacun dans leur domaine de ces situations de conflits et de violences extrêmes, mais aussi de la façon dont ces conflits extrêmement violents s'articulent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la construction d'un corpus de droit international humanitaire, et d'un système de justice internationale censé, si ce n'est prévenir cette violence extrême, au moins permettre que les crimes les plus graves soient nommés, qu'ils soient jugés, et que leur pouvoir de destruction des personnes et des sociétés ne reste pas sans réponse. Alors, je me tourne vers vous pour vous présenter un peu plus en détail. Valérie Rozou, d'abord, bonsoir. Vous êtes professeure de sciences politiques à l'Université de Louvain. Vous êtes également chercheuse au FNRS en Belgique, qui est l'équivalent de notre CNRS. Vous êtes, pour essayer de résumer, spécialiste, si j'ai bien compris, des médiations, des négociations dans un ensemble de situations post-conflit. Et de ce que l'on peut résumer, peut-être un peu trop rapidement, par le terme de justice transitionnelle, le mécanisme de justice transitionnelle. Et vous êtes l'autrice de nombreux articles et ouvrages sur ces sujets. Et pour montrer que ça embrasse justement différents espaces géographiques, différentes périodes historiques, vous avez écrit sur la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Europe, mais aussi sur la Colombie, sur le génocide des Tutsis au Rwanda, et plus récemment sur le passé colonial belge et une commission parlementaire qui a travaillé ces dernières années à la notion de réparation des crimes liés au passé colonial. Et puis, je le dis car c'est important, vous avez coordonné avec Justine Lacroix ce beau dossier que nous avions publié en mars dernier dans la revue Esprit, Justice ou réparation. Et peut-être qu'on pourra parler de ce point d'interrogation. Antoine Garapon, bonsoir. Vous êtes magistrat et philosophe, essayiste. Vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages sur la justice et son évolution dans le monde actuel, pas seulement la justice internationale, mais aussi la justice internationale. Et je mentionne juste deux livres qui me paraissent plus directement reliés à notre sujet de discussion ce soir. Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner pour une justice internationale. C'était aux éditions Odile Jacob en 2002. Et puis, peut-on réparer l'histoire, esclavage, colonisation, Shoah, également chez Odile Jacob en 2008. Je précise encore que vous êtes producteur de l'émission Esprit de justice sur France Culture. Si certains de nos auditeurs ce soir restaient sur leur faim, ils peuvent vous retrouver sur les ondes et que vous présidez aujourd'hui la commission reconnaissance et réparation qui travaille à développer aussi une philosophie de la justice restaurative et notamment dans les cas donc d'abus et de crimes sexuels. Firas Kontar, bonsoir. Vous êtes franco-syrien, opposant au régime de Bachar al-Assad, militant des droits de l'homme et fier de l'être, si j'ai bien compris. Et vous avez publié notamment Syrie, la révolution impossible chez Aldeia en 2023 et participé à ce monumental et très important ouvrage publié par les éditions du Seuil, Syrie, le pays brûlé, le livre noir des Assad, qui est paru en 2022, précisément pour documenter des crimes, peut-être qu'on ne peut ni punir ni pardonner, vous nous direz. Alors, je vais profiter de mon privilège et mener un débat avec nos invités pendant 45 minutes à peu près. Et ensuite, nous pourrons prendre toutes vos questions, dont j'imagine qu'elles seront nombreuses. Je me tourne d'abord peut-être pour un petit point pédagogique vers Antoine Garapon, parce que quand on parle de justice internationale, ça n'est pas toujours évident de savoir de quoi on parle au juste. Et donc, est-ce que vous pourriez commencer par nous dire en fait ce qu'est ce système de la justice internationale à très grands traits? Voilà, dans quel cas est-ce qu'on estime qu'il est compétent?
Alors, il n'y a pas véritablement de système de justice internationale. Il y a des juridictions et la plus ancienne, c'est la Cour internationale de justice, dite la CIJ, qui siège à La Haye, qui est une cour de l'ONU interétatique et qui statue sur les litiges interétatiques et l'application des traités. Et puis, plus récemment, on a eu, suite au traité de Rome, la Cour pénale internationale et qui a traité de peu d'affaires, mais qui s'est affirmée, on en parlera ce soir, dans les deux conflits, aussi bien de la guerre entre la Russie et l'Ukraine que dans le conflit israélo-palestinien à Gaza. Et puis, il y a d'autres juridictions aussi dont on ne va pas en parler parce que ce serait trop long, mais là, pour le coup, la Cour pénale internationale a créé un véritable système dans lequel il délègue ou il rend possible le jugement de crimes très graves comme les crimes contre l'humanité par des cours nationales au titre de la compétence universelle. C'est comme ça qu'au Rwanda, on juge en ce moment, à quelques centaines de mètres d'ici, le docteur Muncio pour le génocide rwandais. Et puis, il y a aussi les juridictions nationales. Et on se rend compte qu'en Ukraine, il se passe beaucoup de choses de ce côté-là. Donc on voit qu'il y a, la justice est beaucoup plus présente. Et si je peux simplement dresser un très très rapide constat. Ce qu'on constate depuis le conflit entre la Russie et l'Ukraine et puis bien sûr entre Israël et Gaza, on a eu une grande activité des juridictions, de toutes ces juridictions, ce qui est assez nouveau. Une grande réactivité même, on pourrait dire. Je pense à la CIJ, c'est tout à fait inhabituel qu'elle se mobilise aussi rapidement pour des décisions aussi importante. Ce qui contraste, je ne sais pas ce qu'en pensera Firas Kontar, ce qui contraste avec le grand silence syrien, la justice internationale pour la Syrie.
Merci beaucoup. On y voit déjà un peu plus clair, mais donc vous abordez déjà cette première question que j'aimerais vous poser à chacun, en fait, de ce moment que je trouve paradoxal, dans lequel on a l'impression que dans une série de conflits, le droit international humanitaire semble toujours plus disqualifié. Et notamment parce que les civils sont pris pour cible d'une manière presque systématique et qu'on ne peut pas dire que c'est juste collatéral, mais que c'est une série de conflits récents où les civils sont vraiment au cœur de la bataille. Mais dans le, donc on peut se dire, ah, mais donc le droit international ne compte plus pour rien, mais dans le même temps, on sent monter cette demande que soient jugés les crimes les plus graves. Donc, vous nous l'avez dit, la justice internationale ne s'applique que dans des cas extrêmes, donc génocide, crimes de guerre, torture, disparition. On sent cette demande que soient malgré tout jugés ces crimes, et elle est adressée, cette demande, à des institutions internationales, notamment à ces cours que vous avez nommées, la CIJ, la CPI. Et même si celles-ci peinent à remplir leur rôle, c'est très difficile pour un ensemble de raisons dont on va parler, mais en tout cas, pour l'instant, on a plutôt le sentiment que ces deux cours, en tout cas, essayent malgré tout de jouer leur rôle. Et alors, leur rôle, précisément, quel serait-il ? Donc, dans ce dossier justice ou réparation, Valérie Rozou, vous avez exploré avec Justine Lacroix, avec d'autres auteurs, cette notion de crime irréparable. Certains crimes sont irréparables et pourtant, on demande justice. Donc, qu'est-ce qu'on demande au juste quand on demande justice dans ces cas extrêmes ?
Oui, en effet, vous avez parlé de paradoxe, et ici, il est abyssal, hein, parce que l'irréparable, ça fait référence à l'irréversible. J'ai envie de dire que tous les crimes sont irréparables, mais en tout cas, quand on parle de crimes de masse, c'est évidemment frappant. Donc, il y a une dose de tragique, de gravité, d'irréversibilité. Vous parliez de pays brûlés. Moi, je me dis toujours qu'une guerre, un conflit armé, juste après, la sensation que j'ai, en tout cas, humble sensation quand je débarque après un cessez-le-feu ou la victoire militaire d'une des parties, c'est une forêt qui était asséchée et qui a brûlé. Et il faut le job de la justice, quelque part, c'est revenir arbre, enfin, prendre soin de chaque arbre. Donc, à la fois, c'est infaisable, donc irréparable. Il y a quelque chose de... Enfin, que moi, je trouve extrêmement touchant sur le plan même anthropologique, c'est que nous savons que les femmes violées et les hommes violés l'ont été, les gens qui sont assassinés l'ont été, les orphelins le resteront, les gens qui ont souffert ou qui sont rescapés d'un génocide disent ça ne s'arrête pas un génocide. Tous les matins, ça reprend. Donc, il y a cette espèce de temporalité presque en génération plutôt qu'en année, avec cette sensation, on dit que De Gaulle a dit « le sang sèche vite ». Alors moi, franchement, toutes les recherches que je fais depuis 30 ans, c'est l'inverse. Le sang ne sèche pas vite. Le sang, il continue de couler dans les forêts quand la justice ne passe pas. Bon, donc irréparable, et en même temps, l'attention, cette demande qui ne s'efface pas d'une génération à l'autre, qu'est-ce qui est attendu ? J'en dresse quelques traits. Quelque chose au niveau des victimes ou des rescapés qui me semble être, et là, qui est surdimensionné, mais on attend souvent des juridictions... un deuil, les Américains, les Anglais parlent de closure, de thérapie, de guérison, etc. C'est, à mon avis, inatteignable. Ensuite, il y a aussi cette envie, cette attente de punition, de sanction par rapport aux responsables. Or, on sait qu'il y a souvent, on n'a que certains responsables, il y a l'amnistie qui est négociée, on pourra revenir si ça intéresse quelqu'un. Et puis, troisième grande attente qui me semble, au niveau macro de la société, donc pas uniquement pour les victimes ou les gens à sanctionner, la réconciliation, le travers de mémoire qui mène à la réconciliation. Compliqué, on pourra sans doute y revenir. Cela étant, donc si on voit les attentes qui sont immenses, l'irréparable, il reste que, quelles que soient les fragilités et les limites, on va en parler toute la soirée, il me semble que ce sens de la justice doit impérativement être pris au sérieux, qui est un récit, vous l'avez dit, un récit plutôt que le silence, et qui a un sens. Et pour clôturer, je dirais que ce que j'ai pu observer, pour ça que je ne suis pas cynique, je pense être lucide, mais quand même volontariste, les crimes de masse me donnent l'impression d'être flottants, qui restent comme ça en suspension, comme des dignités qui sont éteintes, mais pas complètement en dehors du jeu, et donner un sens de la justice aussi insuffisant soit-il, pour moi, c'est rallumer des dignités. Et ça n'a aucun prix. Et dire c'est irréparable, il n'y a rien à faire, pour moi, c'est insupportable. On verra que ça ne passe pas, de toute façon.
Antoine Garapon, vous avez déjà commencé en fait à nous parler de la situation en Ukraine, où presque immédiatement, en fait, après le démarrage du conflit, et en tout cas après ce moment où les troupes russes se sont retirées de Boutcha et qu'on a découvert l'horreur de ce qui s'y était passé, les Ukrainiens se sont mis de manière très organisée, en fait, très délibérée, à récolter des preuves et à préparer le moment où on pourrait leur rendre justice. Mais Valérie nous parlait tout à l'heure de situations post-conflit, quand elle arrive après un conflit. Ici, ça arrive dans le conflit. Et est-ce qu'il n'y a pas une sorte de télescopage entre le temps de la justice, le temps de la guerre ? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut commencer à imaginer déjà la justice alors que le conflit fait rage ?
Ben, ça commence plus que dans le conflit, ça commence dès le début du conflit. Ce qui est tout à fait singulier en Ukraine, c'est que c'est un crime d'agression qui est immédiatement dénoncé et qui fait partie de la stratégie ukrainienne. Qui fait partie de la stratégie parce qu'il y a ce sentiment d'injustice criant de l'agression du voisin russe. Et donc, ça, c'est tout à fait nouveau. Le crime d'agression, c'est un crime qui fait des victimes, mais c'est un crime en soi, c'est ça. Bon, il est immédiatement plaidé et il va avec succès. Avec succès parce que finalement, même si la CPI, pour des raisons techniques très complexes, ne dispose pas d'une définition claire du crime d'agression, il n'empêche que. À propos des affaires, de l'affaire des bébés et de transfert d'enfants.
La déportation des enfants.
Déportation d'enfants. Mmh. Et des très jeunes, des moins jeunes, des adolescents. Et donc, il y a deux mandats d'arrêt contre Poutine et Mme Belova. Et donc, là, il y a quelque chose de nouveau. Et je crois que ce qui est nouveau, c'est une sorte de traitement en temps réel de la justice. La justice, dans la deuxième partie du XXe siècle, elle intervient après, du moins Nuremberg. Elle commence à intervenir pendant le conflit en ex-Yougoslavie, ou pour des raisons politiques d'ailleurs tout à fait inavouables mais avouées, c'est-à-dire que les Occidentaux ne veulent pas aller au sol en ex-Yougoslavie, donc comme on ne veut pas de réponse militaire, on fait de l'humanitaire et du judiciaire. On envoie des forces d'interposition et puis on crée le TPY. Même chose au Rwanda, ça montre une sorte de quoi, c'est un prétexte à la passivité de la dite communauté internationale. Donc on voit se confirmer en ce début de XXIe siècle l'intervention de la justice en temps réel, qui est à la fois une nécessité, je crois, une nécessité en raison d'une nouvelle sensibilité, ça il faut s'en réjouir, de justice, hein, dont vous parliez Valérie Rozou, mais en même temps on pourrait revenir ce qui n'est pas sans risque.
Et on pense quand même, par exemple, dans les dernières semaines, Vladimir Poutine, qui est en fait sous mandat d'arrêt international de la CPI, se déplace pour aller en Mongolie. Donc si on respectait scrupuleusement le droit, la Mongolie aurait dû lui passer les menottes au poignet et l'extrader pour qu'il puisse être jugé. Ça ne s'est évidemment pas produit. La Mongolie est trop dépendante de la Russie pour un ensemble de raisons. Il y a quand même aussi le risque qu'en s'exprimant de cette façon, à un moment où en fait elle n'a pas les moyens de le faire, la justice se désarme elle-même.
Oui, qu'elle se disqualifie, et je pense que c'est le risque est réel. Alors moi, ce que je dirais, c'est que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est une transformation des rapports entre la justice et la politique internationale. Et on est tous victimes, on est tous tributaires d'une transposition sur le plan international de la situation interne. Et on aimerait qu'il y ait une justice qui soit l'arbitre ultime des conflits et qui juge les crimes les plus graves, comme ce que nous essayons de faire sur le plan interne. En fait, ce n'est pas ce qui se profile aujourd'hui, et encore moins depuis ces deux conflits. On assiste à une intervention de la justice assez inhabituelle, assez courageuse. Je pense même à la CIJ, il ne nous a pas habitués à des décisions aussi rapides et aussi courageuses, y compris jusqu'à celle du 19 juillet, où elle dit les choses sur la colonisation israélienne. Donc, un certain courage, mais on ne peut pas attendre de la justice qui ait la même effectivité et qu'elle jouisse de la même autorité que celle dont elle jouit au niveau interne.
Pas encastrée dans un système politique comme au plan national. Alors, Firas Kontar, je me tourne vers vous parce que vous avez eu l'occasion d'écrire, et notamment dans la revue Esprit, mais pas seulement, que pour vous, la guerre en Syrie, sur cette peut-être nouvelle articulation entre la justice internationale et la politique internationale, que la guerre en Syrie a constitué un point tournant en matière de non-respect du droit international, bien sûr, mais aussi par la construction d'un discours de propagande qui vise presque à singer, voire à ridiculiser, à retourner le sens des termes du droit international, et ce qui le rend évidemment inapplicable. Donc, en commençant par dire que les civils qui se retrouvent pris dans ces conflits, qui en sont la victime, seraient des combattants ou seraient des terroristes, donc aucune des règles de droit ne s'applique, et jusqu'à d'ailleurs, dans le cas de la Russie en Ukraine, on le voit, jusqu'à d'ailleurs nier qu'on soit vraiment en guerre. Donc Bachar el-Assad, lui, il était vraiment en guerre contre sa propre population, mais ça n'est pas ce qu'on a dit à l'époque. Valérie nous a aussi parlé de « closure ». Et vous me disiez en préparant ce débat que, en fait, la guerre en Syrie, elle ne s'est jamais terminée.
Alors non, elle ne s'est jamais terminée, malheureusement. Et je dirais que c'est devenu une sorte d'oubli d'humanité, la Syrie. En fait, elle est oubliée de tous aujourd'hui, alors que la souffrance est là, qu'on a encore des morts. Le crime n'est jamais terminé. Le crime continue. Et ce qui s'est passé en Syrie de plus dramatique, c'est que tout ce qu'on voit aujourd'hui dans la zone du Levant, je pense que trouve ses origines aujourd'hui en Syrie, sur la façon de faire les guerres. Ce qu'a voulu faire Poutine aussi en Ukraine, quand il allait en Ukraine, il avait fait un ballon d'essai en Syrie, en fait. Ce qui s'est passé en Syrie depuis 2011, c'est que Poutine, Assad ont augmenté le seuil de tolérance face à l'inacceptable, face à la barbarie de toutes les populations, en fait. Un exemple, quand le 20 août, cette date peut-être ne vous dit pas grand-chose, mais le 20 août 2013, Assad a gazé sa population. 1400 morts, 400 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Rien. La même année, on découvre en fait un photographe déserteur quitte la Syrie avec 44 000 clichés de 7 000 morts sous la torture. Les mots du directeur du centre de l'Holocauste qui a accepté d'afficher ses portraits à Washington, c'est ces mots, c'est pas les miens parce que j'aime pas me référer à la Deuxième Guerre mondiale, mais il a dit « on dirait des photos de sortie de camps de concentration », ces images-là. Et quand on les voit, effectivement, ce sont des photos de sortie de camps de concentration, d'après le directeur de ce centre de l'Holocauste. Et tout cela est resté impuni. Dans une des prisons d'Assad, on sait qu'il y a été construit en 2012 un four crématoire. Et on sait qu'aujourd'hui, on a 15 000 détenus syriens qui sont morts sous la torture, dont on n'a jamais reçu les corps. Les familles n'ont jamais reçu les corps. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, comme je vous le dis tout à l'heure, c'est vraiment les conséquences, les guerres du Levant aujourd'hui sont les conséquences vraiment de cette impunité qui a eu lieu en Syrie, à laquelle on s'est habitué. Et que le 7 octobre, le crime contre l'humanité du Hamas du 7 octobre, cette attaque-là, trouve ses origines aussi dans cette barbarie qui a été normalisée dans tout le Levant. Qu'est-ce que un crime comme le 7 octobre, pour quelqu'un du Hamas, quand il voit, je dirais, tout ce chaos moyen-oriental auquel on a assisté, auquel on a accompagné, on l'a regardé sans jamais rien faire. Et cette réalité, elle nous poursuit. Entre 2015 et 2018, Poutine et Assad ont bombardé 520 fois des hôpitaux. La première chose qu'a fait Poutine en Ukraine, ça a été de bombarder la maternité de Mariupol. On s'est habitué à cela. Et la guerre syrienne a malheureusement, en fait, cette guerre contre la population, qui a été contre les civils avant tout, a malheureusement banalisé cette injustice aujourd'hui qu'on tente de réparer comme on peut à travers des faits. Mais bon, en Syrie, c'est très compliqué, et on le verra peut-être plus tard parce que la Syrie n'est pas signataire du traité de Rome. Mais effectivement, quand on voit cela, ça a été aussi, je dirais, au profit de beaucoup de forces qui se disent qu'aujourd'hui, c'est le rapport de force qui prime sur le droit dans cette région-là, de partout. Et on le voit. Et Poutine a voulu nous installer dans ce rapport de force par rapport au droit. C'est ce qu'a voulu Poutine. C'est ce qu'il a réussi de faire partiellement. Et aujourd'hui, je dirais, toute la difficulté, c'est de ramener la justice, de reconstruire. Mais pour cela, il faut que peut-être que le feu arrête de brûler dans la forêt par rapport à l'image que vous donnez.
Merci beaucoup. Alors, je me demande dans quelle mesure, en fait, une des réalités nouvelles auxquelles il faut faire face, par rapport à l'époque où on a écrit les conventions de Genève, on sortait de la Seconde Guerre mondiale, et ce à quoi on pensait, c'était des conflits interétatiques. Et en fait, dans les conflits dont il a été question là, on voit bien qu'une des difficultés, c'est que l'un des belligérants, au moins, est un acteur non étatique. Donc on n'est plus dans une situation classique de guerre, mais peut-être c'est par reconstruction qu'on imagine qu'il y a eu des guerres classiques. En tout cas, on est maintenant dans ces guerres qui n'en sont pas. Donc, je disais, Vladimir Poutine s'obstine à dire opération militaire spéciale en Ukraine. Mais ce n'est pas sans effet, ça, sur le fonctionnement du droit et de la justice, si on commence par nier qu'on est en guerre. Et donc, je suis frappée par le point auquel la question du terrorisme et d'organisations terroristes qui, elles aussi, s'abritent derrière les civils, vient brouiller en fait toutes les catégories héritées du XXe siècle qui permettaient d'essayer de juger, qui permettaient d'essayer de donner du sens, de fixer des limites, un cadre. C'est Pierre Hassner qui disait, voilà, le brouillage entre l'interne et l'externe, entre le militaire et la police, entre les combattants et les civils. Mais de telle sorte que, finalement, ce terrorisme a entraîné, y compris les démocraties, dans des formes de lutte sans limite, des conflits dont on pourrait dire presque qu'ils viennent nous déciviviser. Et donc, quelles peuvent être les conséquences de ça, de ce piège terroriste dans le domaine judiciaire et pour la justice internationale, Antoine?
C'est la grande difficulté. Je pense au numéro qu'on avait fait à la revue avec Pierre Hassner, justement, et d'autres, juste après le 11 septembre. C'est-à-dire ces fameux articles où Pierre disait cette confusion des frontières, cette confusion des registres. Alors, le grand absent, c'est cette contre le terrorisme, dans le fond, la justice internationale en général n'est pas très bien équipée. Pourquoi ? Parce que pendant la deuxième partie du XXe siècle, c'était les guerres de libération nationale, et les terroristes étaient souvent ceux qui se battaient pour la libération de leur pays. Et donc, un certain embarras des traités internationaux. Et puis aujourd'hui, on voit bien qu'au Moyen-Orient, il y a un effondrement des États. C'est-à-dire que, on prend l'exemple de la Syrie, mais c'est l'exemple du Liban. C'est-à-dire que le Hezbollah est une organisation terroriste qui a autant d'hommes, autant d'équipements, autant d'entraînements, autant d'expériences dans les horreurs qu'ils ont commises en Syrie, Daesh. Donc, la situation au Moyen-Orient est de ce côté-là absolument terrible et effectivement annonce quelque chose d'une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique et qui présente un piège terrible pour les États. Des guerres asymétriques, mais que j'hésiterais à qualifier de terrorisme. On pourra revenir sur ce débat. Et je crois qu'on est devant un vide juridique et la nécessité pour le droit international de rattraper cette nouvelle configuration actuelle qui est très singulière.
Et pourtant, on apprend quand même, depuis qu'on est entré dans ce cycle terrorisme et réaction surdimensionnée, disproportionnée au terrorisme, cette espèce de dialectique qu'on connaît depuis le 11 septembre.
C'est le cœur du terrorisme, excusez-moi de vous interrompre, c'est le cœur du terrorisme. Le terrorisme, c'est de pousser l'autre à surréagir, parce qu'il ne peut pas y avoir d'équilibre des forces, il n'y a pas de symétrie des... qui rendent les forces comparables. Et donc, c'est de pousser l'autre à la faute et de pousser l'autre à se disqualifier lui-même. Et dans les, on l'a vu pour la législation antiterroriste, on l'a vu pendant toute la deuxième partie du XXe siècle. Et là, malheureusement, la stratégie du Hamas a parfaitement fonctionné. C'est-à-dire de pousser l'autre à se disqualifier par un usage démesuré de la force. Donc, il y a une logique terroriste. Il y a une logique terroriste à une grande échelle au Moyen-Orient.
Et donc le droit quand même avance, il a aussi sa propre créativité dans ce dossier justice ou réparation. Valérie Rozou, il avait aussi été question des attentats terroristes du Bataclan, où quelque chose se joue aussi d'une justice qui essayerait de donner une place aux victimes qu'elle n'a pas toujours eu, pas de cette façon. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une voie dans laquelle il faudrait persévérer, poursuivre, qu'il y a d'autres choses encore à construire dans ce domaine ?
Je pense que ça, c'est organique, comme on dit, tout le monde parle d'organisme, de matière organique. Ça bouge, ça vit, ça respire, le système de justice, et ça va dans un sens intéressant en termes de respect de la dignité des victimes ou des survivants. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas se tromper, mais il y a eu beaucoup de commentaires critiques aussi sur l'aspect... je pense à Sandrine Lefranc ici, qui est une spécialiste de tout l'aspect Kleenex de ce genre de procès, où on met plus l'accent, pas en France, mais en tout cas en Afrique du Sud, qu'elle connaît très bien aussi, l'accent sur les émotions, que sur le droit au sens strict. Mais ce qui m'a frappé, si je peux, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que donc il y a la nature ou le terme terroriste. Je me disais, c'est vrai que c'est intéressant de penser au type d'altérité qui est à l'origine de la violence, et qu'on parle de la justice, on parle des juridictions comme si c'était les mêmes pour tout. Or, je pense au moins à 4 scénarios qui sont très différents, et on pourrait rajouter la question terroriste dedans en plus, mais c'est les guerres internationales. Vous disiez, bon, est-ce que ça a jamais existé ? Oui, il y a eu quand même des guerres internationales avec des soldats français et allemands de chaque côté, hein, de la barrière, même s'il y avait par ailleurs des crimes contre l'humanité qui étaient faits à gauche et à droite en permanence, mais où l'autre est vraiment l'ennemi à combattre. Il y a une détestation, il y a une haine, mais il y a aussi un respect profond de la culture de l'autre, même si on la déteste. Il y a beaucoup d'officiers français ou allemands qui respectaient les grands auteurs, les grands de la culture de l'autre. Okay, c'est pas du tout le cas dans une guerre coloniale où l'autre, c'est pas l'ennemi à combattre, c'est plutôt l'enfant à éduquer ou le barbare à civiliser quand tout va bien. Et du côté terrorisme, on glisse là-dedans aussi en termes de mépris total de la culture de l'autre. Je pense que la justice après à mettre en place n'est pas la même. Troisième scénario auquel je pensais, guerre civile, hein, tout le cône, l'Amérique latine notamment, mais le vôtre aussi, malheureusement, votre forêt aussi, où l'autre est un traître à punir, c'est pas la même nature. Et enfin, les crimes de génocide, où l'autre est un animal exterminé. Et donc, on a les mêmes types de structures judiciaires, mais les relations qu'il s'agit de reconstruire si on peut, ou de remettre à l'endroit, à mon avis, demande un autre type un type de dentelle tout à fait spécifique.
Oui, des civilisations, je disais bien ça en référence à Norbert Elias et notamment en pensant à un texte de la revue Esprit où Florence Delmotte rappelle que pour Norbert Elias, au cœur de ce processus de civilisation, il y avait la capacité de se mettre à la place d'un autre différent de soi et de plus en plus différent de soi, et que la décivilisation, c'est quand ça n'est plus du tout possible. C'est peut-être aussi une chose que répare la justice, dans le sens où elle remet les autres dans un un espace de d'interlocution, d'interpellation commun. Vous avez eu l'occasion aussi d'écrire là-dessus dans la revue Antoine. Mais Firas, est-ce que vous, par rapport à cette question du terrorisme, est-ce que vous avez l'impression que ça change la donne, que ça change la donne en termes de lutte pour les droits de l'homme, de justice?
Alors, ce qui est très... ce sujet qui est très qui est un constat, c'est que il y a eu des justices pour je dirais des victimes des terroristes, mais il n'y a jamais eu de justice pour et c'est là où il faut faire l'effort, pour les victimes du contre-terrorisme, qui sont aujourd'hui très très nombreuses, et c'est ce qui alimente aujourd'hui aussi en grande partie le terrorisme. Cette décivilisation, elle part de là, c'est qu'on ne prend pas en compte ces populations qui subissent dans une première vague le terrorisme, mais qui subissent derrière le contre-terrorisme et qui sont aujourd'hui 10 fois, 15 fois, 100 fois plus nombreuses en fait que les victimes du terrorisme. Quand on a parlé de Daesh, quand on a commencé à s'intéresser à Daesh, c'est suite aux attentats. Mais Daesh, combien de milliers de Syriens avaient-elles tué d'Irakiens avant qu'on s'intéresse à Daesh et qu'on en a fait un sujet de justice que quand nous avons été touchés. Et par contre, notre réaction par rapport à ça, dans des bombardements qui ont été bien plus ciblés que dans d'autres conflits, bien sûr, hein, c'est vraiment, on n'est pas comparable à ce qui s'est passé par rapport à la Russie, en Syrie et autres. Et on occulte totalement, non seulement les populations civiles, dans notre réaction, mais aussi un projet politique qui peut amener à autre chose et à tourner la page. Et quand on dit tomber dans le piège du terrorisme, on y tombe à chaque fois parce que ces guerres, aujourd'hui, elles ne trouvent pas de fin. Et moi, ce que je vois au début des années 2000, suite à la réaction, au 11 septembre, on a mené des guerres qui ne ciblaient pas directement les civils, où c'était vraiment ce qu'on appelle des victimes collatérales. Et aujourd'hui, on en est dans des guerres, comme à Gaza, où on cible directement des civils et on les appelle les victimes collatérales. Et c'est très, très compliqué de parler de justice aujourd'hui aux populations du Sud global, hein, ce terme de Sud global, ou aux populations arabes du Levant que je suis, quand cette justice, ils en sont totalement absents. Eux, ils ont l'impression de ne pas compter, de ne pas être vus. Et c'est vrai, ce constat qu'ils font, il est vrai et on leur confirme tous les jours. Le Hezbollah a massacré, peut-être que derrière Assad et Poutine, le Hezbollah a massacré des dizaines de milliers de Syriens. Et pourtant, il était toujours légitime. En Europe, tout le monde voulait discuter, comme l'Iran. Tout le monde voulait discuter avec l'Iran, alors qu'elle avait massacré des dizaines de milliers de Syriens en soutien à Assad. La Russie, pareil. Tout le monde disait, oui, il faut parler encore, continuer à parler avec Poutine. C'était quelque chose qui normalisait cette injustice. Et derrière, on ne parle de justice, nous, que quand cela nous touche directement, ici, à Paris, au Bataclan, malheureusement. Oui. Et c'est cela que la justice ne pourra avancer que si à un moment donné, on prend en compte ces populations qui en sont bien plus victimes que nous, mais qu'on abandonne totalement dans notre gestion du contre-terrorisme et qui devient un bain de sang aujourd'hui, comme on le voit à Gaza. Et ça, c'est un désastre parce qu'on ne voit pas comment réparer demain cette réparation, comment elle peut venir après un tel bain de sang. Comment on pourra parler de justice à Gaza après un tel bain de sang où on a alimenté, même nous, en armes, et les Américains continuent à l'alimenter en armes? Et ce qui est très décevant pour moi, je vais peut-être finir pour ça, ce qui est très inquiétant, c'est que moi, la justice viendra des démocraties, pas des autres, certainement. Mais quand nous nous mettons au même niveau que les dictatures ou ce qu'on appelle les systèmes illibéraux, les régimes illibéraux, et bien là, l'espoir, malheureusement, s'atténue de faire avancer quelque chose qui ressemble à une justice internationale qui est aujourd'hui, qui agit certainement, qui essaye d'agir, mais qui est impuissante aussi. Hein. Il y a l'action et il y a l'impuissance. Et on met à mal cela et on tombe dans ce piège que vous citez, malheureusement.
Mais en fait, Antoine Garapon, vous nous avez déjà dit tout à l'heure, il y a cette articulation de la politique avec la justice, qui c'est aussi des langages différents, c'est des espaces différents, c'est des temporalités différentes. Et la politique et la sortie de ces conflits, là, c'est bien de parler avec tout le monde. C'est-à-dire que si on ne maintient pas... Et Valérie Rozou, vous qui êtes une spécialiste de la négociation, de la médiation, population. C'est vital de parler, de faire parler, de continuer de parler et peut-être de se méfier au plus haut point du moment où on glisse dans un langage religieux, pour le coup, qui obéit là à une rationalité tout autre encore.
Oui, moi je pense que c'est un des points positifs, une des vertus de la justice internationale. Et je pense à l'affaire de la CIJ, la première sur l'accusation de génocide par l'Afrique du Sud devant la CIJ. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que Israël a répondu en envoyant une délégation au plus haut niveau par un de ses plus grands juristes, et qui était d'ailleurs Aaron Barak, qui était une des, comment dirais-je, particulièrement dans le viseur de la réforme judiciaire de Netanyahou, du cabinet Netanyahou. Et ils ont pris au sérieux cette accusation, ils y ont répondu, ils ont argumenté, dans une argumentation d'ailleurs qui était très intéressante, qui a été discutée, qui a circulé parmi les juristes. Et j'y vois quelque chose de très positif, c'est-à-dire que la justice ne fait pas des miracles, elle n'arrête pas les massacres, mais elle a permis, et elle permet, et ça continue, d'ailleurs on voit, je vois les débats en Israël sur l'arrêt de l'avis du 19 juillet, on voit bien que ça reste une instance d'interlocution, ce qui est particulièrement important aujourd'hui, où on voit quand même un retour comme vous le rappeliez, de fondements religieux transcendants qu'on ne peut pas négocier. Et c'est une grande différence aussi avec la situation de la deuxième partie du XXe siècle, où il y avait des combats de libération nationale, de la colonisation, des conquêtes, mais on était toujours dans un système dans lequel les références du droit international étaient des références territorialisées et politiques. C'est malheureusement de moins en moins le cas.
Valérie Rouzou, vous voulez réagir?
Peut-être. Vous avez dit l'impression que ces vies ne comptent pas. Mais ça, c'est effectivement l'un des rôles, à mon avis, du procès ou d'enclencher une procédure, c'est justement de montrer chaque vie compte. Et on l'entend tout le temps dans les journaux. C'est hurlement pour dire mais toutes les vies ne se valent pas. Bon, et peut-être un exemple très concret qui nous sort de l'actualité, si je peux, mais on peut, l'actualité est suffisante que pour pouvoir rester embourbé, mais qui peut-être donner un peu d'espoir, parce qu'il est difficile à capter, et si on n'en a pas, il n'y a rien qui va avancer. Mais donc la Colombie est un cadre complètement différent, mais quand même c'est un demi-siècle de guerre civile. Terrible, terrible pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Et j'ai l'exemple d'une dame que je connais qui est responsable d'une nouvelle institution qui a été mise en place à la suite des négociations justement entre le FARC et le gouvernement, qui est une institution responsable uniquement de la gestion judiciaire de tout ce qui concerne les disparitions. Okay, donc c'est un crime spécifique. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de Colombiens qui ont été emportés un matin, hommes, femmes, jeunes, vieux, et dont on ne sait plus rien. Donc les familles, il y a une dame qui m'expliquait, j'avais rencontré, je continue à mettre la place de mon fils à table, matin, midi, soir, il a disparu il y a 37 ans. Quoi. Donc c'est le genre de choses où ça fige une espèce d'attente très 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 compliquée. Et cette dame m'expliquait, en fait, c'est terrible, notre institution a du sens, elle est tout à fait impuissante, on parlait de l'impuissance, mais elle a du sens quand même malgré son impuissance. Et je vous donne l'exemple d'une famille qui est allée la voir. Elle me disait, dès le début, il y avait trois personnes, deux enfants, la mère, et ils cherchaient le père et le mari. Dès le début, mon amie disait, je savais que je ne retrouverais pas ce corps. Il faisait partie des gens, donc c'est impossible de retrouver ce type de crime à telle époque. On a travaillé avec eux pendant 6 mois d'arrache-pied. Je crois qu'elle se donne à 100%. Donc elle est responsable, elle est représentante d'un État qui a méprisé les gens qui arrivent maintenant. Elle dit, mais je me suis donnée à 100% pour essayer de montrer qu'on faisait tout ce qui était possible. À la fin des 6 mois, 7 mois, je ne sais plus trop, la famille est allée voir cette dame en disant, on sait qu'on va pas. Elle était angoissée de dire, bon, il faut clôturer parce qu'il y a tellement de demandes. Hein. Elle ne savait pas comment l'annoncer. La famille est allée à anticiper, a dit, écoutez madame, il y a beaucoup d'autres gens qui frappent à la porte, on a compris, on ne va pas le retrouver. Mais malgré ça, la famille, en fait, a fait tout un chemin pendant ces 6 mois, énorme, en disant, en fait, il y a eu un sens de la justice. cet État, incarné par telle personne et l'institution qui travaille à 100% derrière elle, a tout fait pour retrouver les... Et c'était vraiment impressionnant d'entendre ce sens de la justice et cette dignité rallumée dont je parlais tout à l'heure. Donc, l'efficacité de la justice, c'est pas uniquement le nombre de personnes qu'on a retrouvées dans ce cas-là. Le processus est fondamental et la qualité des représentants de l'État avec lequel il faut refaire de la confiance.
Et les disparitions donc font bien partie de ces crimes les plus graves. Je l'ai dit tout à l'heure, et ce que vous dites là, donc des raisons pour lesquelles les familles continuent de demander justice, comme ces Syriens dont vous parlez, les Syriens en quête de justice, mais qui parfois font le travail eux-mêmes, en fait, les civils à côté des institutions. Est-ce que vous voulez en dire un mot, Firas ?
Il y a quelque chose de particulier avec la Syrie, c'est que la Syrie étant non signataire du traité de Rome, effectivement, le tribunal pénal international ne peut pas se saisir des crimes qui ont été commis en Syrie. Et du coup, c'est ce qui se passe, on entend souvent parler des procès de dignitaires syriens qui se passent en France, en Allemagne, en Espagne, en Suède. C'est des actions individuelles de Syriens. C'est un acharnement individuel de Syriens qui ont appris par leur contact, souvent quand ils arrivent en Europe, par des associations, que et telle juridiction comme la française ou l'Allemagne s'est ouverte en fait pour juger les crimes contre l'humanité ou les crimes de génocide ou les crimes de disparition et qu'il était possible. Et donc, effectivement, s'il y a quelque chose de particulier, c'est que les Syriens cherchent à se faire justice aujourd'hui eux-mêmes de façon individuelle contre Assad. Donc il y a plusieurs procès qui sont là en cours. C'est aussi une façon de lutter contre l'impunité et la réhabilitation d'un criminel. Parce qu'il y a le temps politique, il y a le politique, il y a le côté politique qui aujourd'hui n'a pas le même regard que la victime, bien sûr, qui a aussi une tendance très forte à fermer les yeux avec... on parlait tout à l'heure des récits qu'il pouvait y avoir eu sur la Syrie. Il faut le savoir que Assad s'en est très bien sorti parce qu'il a diffusé des récits auprès des populations, qu'il menait une lutte contre des djihadistes ou une lutte anti-impérialiste contre des gazoducs, un projet de l'OTAN de fabriquer un gazoduc dans le coin. Donc il parlait aux gens, il a normalisé en fait, du coup, il a trouvé des avocats en France, très nombreux, qui le lendemain de l'attaque chimique ils sont allés manifester de gens d'extrême droite et d'extrême gauche qui ont dit oui, nous refons le coup de l'Irak, hein, par exemple, qu'ils comparaient l'invasion de l'Irak par Bush à un massacre chimique qui a bien eu lieu et qui a tué 1400 personnes, dont 400 enfants. Donc on a cette volonté de beaucoup de Syriens de œuvrer contre la réhabilitation et contre quelque chose qui est aussi très qui m'a moi-même, je dirais, beaucoup touché, c'est ce révisionnisme quand on parle de la Syrie. Il y a un vrai révisionnisme. Et je vais dire quelque chose qui peut peut-être heurter. Je n'ai compris la lutte acharnée de certains contre le négationnisme que quand moi aussi j'ai été confronté à la négation du crime syrien. C'est quelque chose vraiment que j'ai compris parce que j'avais un ami à l'université Lyon 3 qui était un fervent militant contre les réseaux négationnistes de Lyon 3. Et je ne comprenais pas son acharnement. Je me dis, bon, c'est quelques idiots qui font des écrits, mais personne n'y répond, personne n'y prête attention. Mais j'ai compris à travers la Syrie que quand quelqu'un parle « Ah, Assad, il a fait du bon boulot », combien cela est dur à entendre en tant que victime de cela. Et je comprends ces Syriens qui ont été touchés dans leur chair à mener ce combat aujourd'hui, qui est aussi un combat pour la vérité. Vraiment, de ce qui s'est passé en Syrie, où beaucoup de courants politiques essayent de faire croire, de raconter une autre histoire, un autre récit. Et ça aussi, c'est très important dans ce que l'on vit aujourd'hui. Et ça lutte, bien sûr, contre la réhabilitation du régime.
Antoine Garapon, un mot peut-être sur cette dimension du travail des juridictions internationales.
Oui, ça c'est très important ce que vient de dire, effectivement, Firas, sur le fait que en Syrie, je suis d'accord pour dire que la Syrie, c'est le moment bascule. C'est une guerre, en fait, oubliée, mais où beaucoup de choses se sont jouées. Et dans les choses qui se sont jouées, c'est aussi la puissance technique, informatique, qui a fait qu'on a énormément de preuves. Et les militants syriens ont compris tout le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de ce travail pour garder mémoire par des traces numériques des horreurs. Et ça a donné lieu à Tripolitanum, sur l'instance des Nations Unies, pour garder et mettre à disposition des juridictions des preuves. On a, je crois, plus d'un 1 700 000 vidéos cachées quelque part, qui posent énormément de problèmes, mais bon, ça existe. Et on constate la même chose en Ukraine. Un peu moins, d'ailleurs, pour Gaza, pour d'autres raisons. C'est-à-dire que la réponse de la justice, sa force quelque part, c'est le temps. Veritas filia temporis, hein, disait autrefois, c'est la vérité, la fille du temps. Et aujourd'hui, on a les moyens, grâce à nos INT et grâce à cette mémoire numérique extraordinaire, quoi, incroyablement performante, des crimes syriens, eh bien, je crois qu'on a une réserve pour un jour faire justice. Justice en punissant les coupables, ou justice ne serait-ce que par la mémoire.
Merci. Alors, à vous entendre tous les trois, on comprend toute la difficulté, l'ampleur de la tâche. Elle est évidemment immense. Et je voudrais peut-être terminer par vous poser la même question à tous les trois. Défendre la justice internationale aujourd'hui, son rôle, les moyens dont elle dispose, sa légitimité, est-ce faire preuve d'un idéalisme complètement déconnecté du réel, les droits de l'hommiste, il faut vraiment être naïf, voire même, est-ce que ça n'est pas contre-productif, parce que finalement on demande l'impossible? Est-ce qu'à demander l'impossible, la justice, dans le cas de crimes si graves, est-ce qu'on risque de renforcer les conceptions désespérées, cyniques, des conflits, de la violence qui sont constitutifs de l'histoire humaine? Vous avez parlé de tragédie tout à l'heure, Valérie, ce qui n'est pas exactement la même chose, mais de reconnaître qu'il y a du tragique. Donc, est-ce que c'est vraiment une histoire d'idéaliste, la justice internationale? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un argumentaire tout à fait réaliste qu'on peut mener en faveur de la justice internationale, Firas?
Alors moi, je dirais qu'il est réaliste ou pas, il est surtout nécessaire. Quand la forêt a brûlé, il faut pouvoir la reconstruire. Et l'exemple syrien nous montre qu'aujourd'hui, on est incapable, en fait, de vivre en tant que société apaisée. La Syrie n'est pas viable en tant que société apaisée. Non seulement parce que celui qui a commis les pires crimes est toujours au pouvoir, mais cette barbarie, cette criminalité qu'il y a eu en Syrie durant 13 ans, elle rejaillit aujourd'hui au quotidien sur la société. C'est-à-dire qu'on voit des crimes qu'on ne voyait pas avant en Syrie aujourd'hui. Les soldats du régime qui reviennent à domicile, c'est quelque chose d'entendre tous les jours des crimes. L'autre jour, pour avoir raconté un fait divers très sordide, une femme quitte son mari, il égorge son enfant de son précédent mariage pour s'en venger. C'était un soldat du régime. Ce type de crime devient commun, assez commun en Syrie aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas eu un moment où on s'est dit que tout ce qui s'est passé, c'était une parenthèse et il faut la fermer. Que c'est ça aussi, la justice, elle est là pour faire aussi ce travail de « on tourne la page ». Ce qui s'est passé, c'était un moment où il faut vraiment l'oublier, c'était exceptionnel. Il y a eu quelqu'un qui était ici à la tête d'un pays qui a poussé à agir comme ça et que tout cela doit se refermer et reprendre un cours de vie normal. Et cela, on ne l'a pas eu aujourd'hui. Donc, en dehors de, je dirais, l'aspect idéaliste, reconstruire une société sans que la justice soit passée, c'est quelque chose qui va être très compliqué et qui est impossible. Parce que la société syrienne, aujourd'hui, elle est en décomposition. Elle ne se reconstruit pas sur ce point.
Valérie, Rosou?
Oui, je trépigne parce que c'est très important comme
question.
Propagation
de la violence,
oui. Oui, mais c'est effectivement ce terme nécessaire me venait aussi à l'esprit. C'est aussi pour ne pas laisser au tragique le dernier mot. Donc, on peut voir le tragique, mais est-ce qu'on va... Venant d'une famille dysfonctionnelle, je peux vous dire, non, on se fait écraser par ce tragique, ou on est tous dans une phase un peu de responsabilité en disant c'est nécessaire, ça prendra le temps qu'il faut, on ne verra pas sans doute les fruits de ce qui serait juste, mais ça à tout le monde de faire quelque chose là où il est. Donc moi, je pense vraiment que c'est une question morale, mais aussi une question politique pour la raison suivante, et presque réaliste, pragmatique, c'est que... ce besoin de voir la vérité, on sait que c'est compliqué comme concept, mais forensic truth, hein, donc il y a eu un crime là, telle personne, combien de personnes, et ça. Ce besoin de voir émerger un récit sur cette vérité ne s'éteint pas. Et donc penser que, bon, On ne va pas rouvrir des débats judiciaires sur un passé qui finalement divise encore aujourd'hui. Moi, je l'ai entendu des dizaines de fois partout où je passais par rapport à tous les endroits et à tous des crimes différents. En fait, simplement, en ne faisant rien, on postpose le moment de le faire. Et ça ne simplifie pas les choses. Et alors, si je peux encore... Oui, c'est pas trop long, pardon.
Pas du tout.
il y a une dimension... que Ferras vient de mettre en exergue, qui est la société, pour remettre à l'endroit une société pour qu'elle redémarre. Mais moi, ce qu'on voit aussi, malheureusement, dans les recherches qui sont menées dans notre université, mais avec plein d'autres partenaires et dans différentes disciplines, c'est que nous travaillons sur des familles qui ont été affectées par des crimes il y a 3-4 générations. Et on essaie d'interroger plusieurs générations, enfin, plusieurs membres de la famille dans chaque famille. C'est très émouvant. C'est pour dire qu'au niveau individuel, ça a beaucoup de prix aussi, au niveau micro. Mais c'est aussi bouleversant de voir le nombre de gens qui sont de la troisième ou de la quatrième génération qui portent des émotions qui ne sont pas les leurs. Les émotions, c'est pratiquement toujours les mêmes. Hein. Honte, quel que soit le côté, même si ils ont été affectés comme victimes, il y a paradoxalement une honte qui est transmise. Donc honte, culpabilité... ressentiment, crainte, enfin peur et haine. Et ça, donc, c'est, sur le plan individuel et sur le plan politique, c'est juste nécessaire, la justice.
Et ça fait partie aussi de ce que disaient les Ukrainiens sur les crimes du XXe siècle qui n'ont pas été jugés et qui, d'une certaine façon, ressurgissent dans ce conflit-là.
Oui. Tout à fait. Ce qui est intéressant dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie, c'est qu'ils ont une longue partie du XXe siècle d'histoire commune. Et ils sont tout à fait. Et c'est un laboratoire intéressant, parce que dans le fond, la Russie, ancienne Union soviétique, n'a jamais regardé en face les crimes, les traumatismes épouvantables que la société a subis entre 17, la guerre civile de 21, les procès, les goulags, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et que finalement, ils le payent aujourd'hui. C'est une des explications que la société civile russe donne à cette brutalité du comportement des troupes russes. Moi, je dirais, oui, bien sûr, il faut se battre pour la justice, mais le combat change de physionomie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi le reconnaître, je le disais tout à l'heure, il me semble que le droit s'est invité dans les relations internationales, beaucoup plus qu'il ne l'était il y a ne serait-ce même qu'un demi-siècle. Mais qu'aujourd'hui, la rançon de ce droit en temps réel, c'est que les dictateurs aussi font du droit, ils font aussi des procès, ils argumentent, et que finalement, le combat qui doit être le nôtre dans les démocraties, c'est de continuer à promouvoir le thème du droit et à lutter dans les différentes instances où il s'exprime pour que le bon droit chasse l'imposture.
Merci beaucoup à tous les trois pour ces propos très riches, très complémentaires aussi, qui ouvrent beaucoup plus de pistes que ce qu'on pourra épuiser ce soir, bien sûr. Mais donc, j'avais dit que ce serait votre tour de poser des questions. Avons-nous des questions dans la salle? Alors, je vois une question ici à droite.
Bonjour, merci pour cette conférence. Juste, j'avais une question, du coup, un peu dans la suite de votre dernière question sur l'idéalisme, le droit de l'hellénisme. Est-ce que finalement, le problème n'est pas que finalement, on vit internationalement dans une sorte de Far West, où finalement la justice internationale est plus, mais depuis les Nations Unies, depuis 1945, une sorte de conciliatrice qui doit concilier des parties armées et donc trouver un terrain d'entente, et que du coup ça sous-entend un peu de balayer un peu les crimes commis, un peu comme au Far West, vous aviez un conflit avec votre voisin et vous pouviez être un tueur en série, si vous saviez tirer le plus vite, les shérifs préféraient composer avec vous. Est-ce que justement, et la justice est arrivée quelque part au moment où où l'autorité était suffisamment puissante et a su arracher le monopole de la violence légitime pour que les rapports entre individus soient des rapports de droit et non plus des rapports de guerre? Est-ce que finalement l'enjeu n'est pas de créer, au moins au niveau des démocraties, une sorte d'union internationale des démocraties qui aurait le monopole de la violence légitime, pour que justement les chefs d'État et les hauts fonctionnaires et les responsables de crimes deviennent des justiciables comme les autres individus et que finalement les rapports entre États puissent être des rapports de droit et que justement là où un mafieux ou un terroriste ou un tueur en série ou un criminel quelconque est injusticiable, les chefs d'État, ceux qui, ayant des responsabilités publiques, puissent être des justiciables et ne soient plus protégés par une immunité. Voilà, pardon, j'ai été un peu long.
Non, mais en fait, moi j'entends plusieurs questions dans votre question. Il y a un peu la question de la justice des vainqueurs et puis il y a un peu la question de la force du droit. Enfin, comment est-ce qu'on rend le droit fort ?
Oui, la justice, elle doit composer avec son impuissance. Et ça c'est... Raymond Aron disait que le paysage international se rapproche de l'état de nature. Et le fait est que dans toutes les expériences qu'on a vues de la CPI ou de l'UTPIRR pour le Rwanda, finalement, Kagame et le régime des FPR qui était à Kigali a empêché un certain nombre d'enquêtes. Et on n'a pas su comment contourner cet obstacle. La situation de Nuremberg est la plus atypique. Malheureusement, c'est là-dessus qu'on a rêvé la justice pénale internationale, parce que la guerre était terminée, on avait tous les hommes, on avait tous les documents, et il y avait une réprobation morale unanime contre le nazisme. Et en fait, cette configuration de Nuremberg de 1945, qui a duré très peu de temps, parce qu'elle s'arrête dès 1946 avec le début de la guerre froide, en fait, c'est une toute petite fenêtre hein, historiquement, il ne s'est pas reproduit. Où on a les hommes, mais la guerre n'est pas terminée, on n'a pas les documents, etc. Et donc, c'est un effort. L'idée de justice, c'est ça. Pour moi, la justice, c'est une volonté, c'est un idéal, c'est un horizon. C'est certainement pas une institution complète, encore moins la justice internationale.
Valérie Rozon, vous vouliez réagir aussi ?
Tout à fait, mais juste une phrase, c'était quand Antoine Garapon a parlé de la Deuxième Guerre mondiale en disant « on a pensé la justice à partir de ce cas-là », de la même façon, on a pensé tous les modèles de réconciliation à partir du cas franco-allemand, et il y avait peut-être un élément en plus de tous ceux qui viennent d'être cités, c'est qu'il y avait un ennemi commun. Donc en plus de tout ce qui a été dit, c'est que pour la première fois, l'ennemi n'était plus de l'autre côté du Rhin, mais c'était l'Union soviétique. Et le fait d'avoir un ennemi commun, ça dynamise au possible les processus de reconstruction, de justice, de ceci. Enfin, donc tout se mettait bien dans les clous, alors qu'il n'y a vraiment aucune situation actuelle qui correspond à ce moment, une espèce de kairos momentum où tout se met bien, j'allais dire, en tout cas pour le camp occidental.
Et Firas, vous vouliez aussi ?
Oui, je dirais qu'on vit une période aussi où malheureusement, beaucoup de belligérants, de puissances moyennes qui émergent et qui voudraient que la force prime sur le droit. Et le Moyen-Orient en est un exemple. Et c'est sur cela, effectivement, qu'on peut lutter. Et je rejoins cet avis qui disait que les démocraties devraient pouvoir le faire. Or, les démocraties, elles ont failli à un moment, surtout avec l'Irak, qui est devenu l'exemple même pour toutes ces forces, je dirais, autoritaires, dont Poutine, qui nous ressassent à chaque fois que, oui, regardez l'Irak. Cette erreur, on la paye très cher aujourd'hui, et on risque de la payer aujourd'hui encore avec Gaza, qui fait que les démocraties sont affaiblies par rapport à cet argument de droit. Mais on devrait, moi je pense, à un espace européen au moins, de l'Union européenne, qui devrait construire cet espace de justice où on ne devrait plus accueillir une personne comme Assad ou comme Poutine et œuvrer sur cette justice un petit peu, construire les bases de quelque chose qui pourrait s'étendre au-delà après. Mais donc il y a l'émergence de ces puissances moyennes, des puissances moyennes, qui sont comme l'Arabie saoudite qui peut l'être, comme la Turquie, comme la Chine aujourd'hui qui s'impose de plus en plus aussi, qui veulent imposer la force par rapport au droit, et c'est ça on le voit, et c'est tout un problème. Comment on devrait réagir à cela ? Je dirais que malheureusement, à la fin de l'Union soviétique, l'ONU n'a pas su se réformer aussi pour accompagner ce grand changement de monde, l'émergence de ces forces, et on est dans une situation de blocage politique là-dessus très forte malheureusement.
Oui, et la situation un peu confuse dans laquelle on est là, c'est bien celle d'un monde qui devient plus multipolaire sans l'être vraiment encore. Notre interlocuteur parlait du shérif. C'est vrai qu'il y a des moments où on aimerait bien que le shérif se montre un peu plus coopératif avec la justice pénale internationale. Voilà, si on pense à l'oncle Sam. Mais que c'est cette impression que les institutions internationales là sont un peu hors jeu dans les conflits du moment, c'est peut-être aussi une excellente raison d'essayer de les réformer tant qu'il est temps. Le fait que l'Afrique du Sud ait saisi la CIJ, moi, dans une sorte d'optimisme irrépressible, je me disais, mais voilà, on ne pourra plus dire que c'est un système de justice construit uniquement par les Occidentaux, mais je vois que Antoine Garapon n'est pas aussi convaincu que moi. Peut-être qu'on avait d'autres questions dans la salle. Oui, plusieurs. Et Fanny, c'est difficile, mais alors il y a aussi un monsieur qu'il faudrait atteindre par l'autre côté après, peut-être.
Très bien. Donc, vous ferez passer le micro ? Alors, je peux. Monsieur d'abord.
Bonsoir. Vous avez affirmé qu'on avait un véritable besoin de justice internationale, même si c'était simplement pour un idéal moral. Mais vous avez aussi affirmé que quand la justice internationale prononce des peines qui ne s'appliquent pas, elle se décrédibilise. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on arrive à trouver le juste milieu entre ce besoin de justice qui est concret, où on a besoin de désignation, de naming, de blaming, de shaming, mais qu'on ne peut pas forcément prononcer des peines parce qu'on sait qu'on n'aura pas le moyen de les appliquer.
Oui, Antoine Garapon.
Oui, non. En fait, les peines ne sont pas très importantes pour la justice pénale internationale, de facto. Hein, c'est-à-dire que c'est vrai, quoi, on regarde à la loupe, il y a très peu de gens qui vont être condamnés en dehors du Rwanda. Les solutions seraient de faire des procès in absentia. C'est un grand débat actuellement parmi les juristes, c'est-à-dire faire des procès alors qu'on n'a pas le coupable ou la personne accusée dans le box. Les Ukrainiens l'ont fait récemment, on le fait. Et le débat, c'est que jusqu'ici, beaucoup de juristes, notamment de common law, y étaient opposés en disant que ça n'a pas de sens de faire un procès. Et pour des juristes continentaux comme nous, ça a beaucoup plus de sens et on l'a fait d'ailleurs pour la Syrie. Bon, voilà. Donc ça, c'est une des solutions. Et si vous voulez, ce qu'on peut attendre de la justice, c'est moins, et là aussi c'est une différence, c'est qu'elle ça soit un marqueur symbolique d'une réprobation unanime, une opinion juriste, l'opinion des juristes, comme à la CIJ, voilà. C'est ça qu'elle peut faire.
Valérie Rouzou, vous me parliez de... Pardon, mais vous alliez peut-être dire autre chose, mais en préparant le débat, vous m'avez parlé de donner une voix aux absents aussi. Que ça, alors là, on parlait des...
In absentia, tout à fait. Il y a cette question de la représentation des absents qui ne se passe pas uniquement pour les absents accusés. Ça, c'est ce dont Antoine Garapon vient de parler, mais aussi il y a plein de mécanismes qui sont mis en place pour parler des absents. Ce dont Victor Hugo disait, les morts sont les invisibles, point. Ils ne sont pas les absents. C'est-à-dire donc des crimes qui ont été commis il y a 60 ans, 80 ans, donc plus que des générations. Est-ce que ça a du sens ou pas? Beaucoup de gens vont dire non. Moi, je pense que c'est essentiel. Parce que comme je disais, ils flottent. Ils ne sont pas absents. Et aussi, je pensais, mais maintenant j'avais quelque chose à ajouter à Antoine et j'ai perdu le fil. Oui, au-delà de la question, les peines ne sont pas importantes. Bon, en tout cas, il n'y a pas que ça qui compte. Il y a aussi le sens, le récit qui est fait. Donc, même si jamais c'est une abstentia et qu'il n'y a pas un accusé là qui paye ce que tous les survivants voudraient, symboliquement, que ça coûte quelque chose, ce qui est arrivé, que ça coûte. Mais même si ça n'a pas eu lieu, le fait qu'il y ait un récit, que la souffrance, que les gens sachent ce qui s'est passé à un père, un frère, c'est décisif au niveau micro. Et moi, je pense au niveau macro aussi. Pour une société, savoir ça.
Je crois que nous avons un monsieur qui a le micro.
Oui, moi c'est une question que je voulais poser. Je me présente, je suis du Congo. Et au moment où nous parlons, il y a 4 guerres dans le monde. Il y a Kiev, il y a Gaza, il y a le Soudan et il y a le Congo. Mais il s'avère que la guerre du Congo, par exemple, ce ne sont pas des attentats, ce n'est pas des terroristes. C'est une guerre des minerais. Et on n'en parle pas, mais là, comme on parle de la justice internationale, face à cela, moi, c'est surtout la question de la saisine. Parce que je considère qu'il y a le droit européen, le droit africain, et le droit, par exemple, actuellement, ce que nous discutons, et pour la Syrie, c'est le droit de l'Orient-Levant. Donc, dans ce cadre-là, la saisine... la justice internationale, pourquoi la saisine ne peut se faire qu'au niveau de la juridiction de la Cour pénale de justice ou bien au CPI, et pourquoi cette saisine ne peut pas se faire dans le cadre de droits représentés par justement les organisations des Nations Unies qui sont l'UE pour l'Europe, l'UA pour l'Afrique et la Ligue arabe pour ce dont nous parlons, l'histoire des attentats. Parce que la guerre au Congo, ce n'est pas des attentats des terroristes islamiques qui viennent, mais c'est une guerre des grandes entreprises françaises, américaines, anglaises et autres qui sont là-bas pour prendre les minerais que nous utilisons ici pour nos téléphones. Donc c'est un petit questionnement que je me fais. Pourquoi la saisine ne se fait pas par le droit? Parce qu'il y a les procureurs généraux de tous ces droits-là. Le droit européen a des procureurs. Le droit africain a des procureurs. Le droit de l'Orient, Levant a des procureurs. Pourquoi la saisine par rapport à nous qui sommes les victimes absents d'ailleurs, puisqu'on n'est pas dans cette boucle-là, pourquoi la saisine ne se fait pas à ce niveau-là? Les organisations des Nations Unies qui ont les juridictions autres que la CPI ou la CGI.
Il y a un peu une double question à la fois technique sur qui peut saisir qui, mais la question me semble aussi être politique, parce que au nom de quoi, enfin, quand la CIJ parle, c'est au nom de traités qui ont été signés par les États. Enfin, il faut quand même une légitimité politique pour que le droit s'applique.
Oui, oui, mais je pense que vous avez tout à fait raison, monsieur, de poser cette question-là, qui est une des questions, un des conflits les plus oubliés, et je pense à l'Ituri aussi, et aux millions de morts de violences politiques. Donc là, la question... Alors, je pense que, pour répondre à votre question, il n'y a pas de juridiction, ou il n'y a pas de juridiction évidente pour traiter de ces horreurs. Je pense à un film qu'on avait primé, Du sang dans nos portables, qui font exactement référence à ce que vous dites. Et le M23 et le conflit actuel en Ituri avec le Rwanda, bref, est un peu un conflit oublié. Alors, vous posez la question des multinationales. Et ça, il y avait des tentatives intéressantes ces dernières années de se servir d'assécher les conflits et les guerres civiles en maîtrisant et en contrôlant et en restituant aux souverainetés nationales les ressources minières. Combien de guerres civiles en Afrique ont été alimentées par les diamants et le pétrole? Je pense à l'Angola ou je pense à d'autres pays. Donc oui, vous avez parfaitement raison. Je pense que, en ce qui concerne les entreprises, c'est plutôt par une prise de conscience et une régulation, alors une régulation qui passe aussi par le contrôle des matières premières et par de stopper la prédation, notamment d'un pays comme le vôtre, plus que par une juridiction internationale qu'on pourra trouver une solution.
Et on peut remonter d'ailleurs jusqu'aux juridictions nationales. C'est un peu, il y a eu des lois passées d'aller jusqu'au bout de la chaîne de sous-traitants et d'attribuer des responsabilités
des
dans
ONG
le pays
qui ont été,
depuis lequel
ONG.
Ça part.
Tout à fait, oui.
Vous vouliez réagir,
juste pour dire aussi comment les modalités de saisine, souvent de la justice, en dehors du cas du Congo, c'est soit un pays est signataire des traités de Rome et du coup la CPI peut intervenir, soit on passe par le Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc, un veto peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de saisine du Tribunal pénal international, le Conseil de sécurité de l'ONU. Là-dessus, c'est l'exemple syrien qui parle encore le plus. Je vais vous donner ce qui s'est passé. La Russie a toujours empêché la saisine du Tribunal pénal international au Conseil de sécurité. Et là, c'est quelque chose qu'il faudrait réformer et peut-être plutôt passer par l'Assemblée générale de l'ONU à la majorité qu'au Conseil de sécurité. Ça, c'est une des pistes en fait, qui avait déjà été évoquée, ou au moins que quand un des pays membres permanents est aussi accusé ou est partie prenante du conflit, ne pas pouvoir utiliser son veto à ce moment-là. Ça, c'est un autre, ça, c'est un autre, une autre piste aussi. Ça, c'est, voilà, exactement. Et là, je vais juste vous donner peut-être un petit exemple de ce qui s'est passé après le lendemain du massacre chimique en Syrie. Il y a eu, en fait, une demande d'enquête onusienne le lendemain du massacre chimique en Syrie du 20 août. Et très intéressant parce que l'enquête ne devait pas établir qui était le responsable à la demande de la Russie. Donc, on a un rapport qui dit qu'il y a bien eu un massacre chimique, il y a eu tant de victimes. Les positions de tir, ce sont celles-là, celles de la 4e division, qui sont celles du frère de Bachar al-Assad, du président syrien. C'est lui qui, en fait, qui a la main sur l'armée. Le type d'arme, tel type de lanceur, avec tel type de produit, tel type de sarin. Tout indiquait que c'était Assad, mais il n'y avait pas mandat de l'ONU pour poursuivre le responsable. Voilà. Donc un exemple d'une faillite juridique là-dessus.
Mais d'où les propositions qui sont actuellement discutées, effectivement, de dire que si un des membres du Conseil de sécurité est belligérant, il renonce à son veto au moins tant qu'il est impliqué activement dans un conflit. C'est vrai que ce que pourrait faire le Conseil de sécurité si la Russie ne mettait pas son veto, ce serait tout à fait différent, ou les États-Unis actuellement. Est-ce que nous avons d'autres questions ? Et peut-être, s'il y en a beaucoup, on peut en prendre plusieurs. Donc, j'ai une question tout devant ici.
Merci. Bonsoir, merci pour les échanges. Moi, je m'intéresse un peu à la Syrie, humblement. Et je suis inquiète, comme ça a pu être exprimé, sur le maintien au pouvoir de Assad et l'impunité grandissante. Et vraiment, quand vous parliez tout à l'heure, il y avait une situation qui me revenait à l'esprit, et je voudrais votre avis sur la façon dont l'Algérie a traité sa guerre civile des années 90 et sur la façon dont elle a tué et dont la justice est passée. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que actuellement, il y a un journaliste écrivain qui a sorti un livre qui s'exprime en disant « La justice est passée, mais cette guerre, elle est dans la peau de chacun et de chaque Algérien. » Et il n'y a pas eu de procès, ou à ma connaissance, enfin, je ne connais pas suffisamment bien le sujet, mais je me dis, cette configuration-là de traitement d'une guerre civile et de réponse de la justice, de réponse aux victimes, elle, malheureusement, elle pourrait se reproduire ailleurs, et en particulier en Syrie.
Ce que vous disiez tout à l'heure, Valérie Rozou, qu'il y a une spécificité de la guerre civile pour la justice internationale ?
Oui, en vous écoutant, je me disais, je repensais à une phrase de Bernanos, il n'est plus tellement à la mode, les jeunes dans la salle ne le connaissent pas, mais donc Bernanos, dans Les grands cimetières sous la lune, il a écrit cette phrase-ci par rapport à la guerre d'Espagne, que je trouve lumineuse par rapport à ce que vous venez de dire et à d'autres cas, notamment syriens. Il écrit ça. Redoutez ceux qui vont venir, qui vous jugeront. Redoutez les enfants innocents, car ils seront, et ils sont, des enfants terribles. Et moi, je pense que ça sera terrible. Enfin, le cas de l'Algérie, c'est vraiment un très beau, un cas, pas beau du tout, mais c'est un cas de laboratoire, c'est encore trop positif. oui, un cas d'école concernant le fait de faire comme si. De faire comme si le prix à payer, mais par une autre génération, va être énorme. Et en attendant que ce prix soit payé, sur le plan des individus, je pense qu'il y a plein d'êtres fragmentés littéralement, et que à l'échelle plutôt macro, on va arriver à des problèmes de santé publique, quoi, de santé mentale collective. Donc je pense qu'effectivement, c'est bien senti ça.
Mais ça, j'embraye, parce que tout à l'heure, vous avez dit le mot amnistie, et puis vous avez dit peut-être qu'on y reviendrait. Et ça veut dire aussi que faire des procès, juger et décider qu'il y a amnistie, même pour des crimes où on peut trouver ça épouvantable qu'il y ait amnistie, ça n'est vraiment pas la même chose que ne pas juger.
Oui, mais peut-être un cas très précis, le cas de l'Afrique du Sud, qui est souvent très valorisé comme un cas magnifique de situation où on a pu résoudre des violences systémiques par autre chose que par un bain de sang, ce qui est vrai. Donc à cet égard-là, c'est remarquable. Donc la mise en place dans la négociation entre Mandela et l'ancien pouvoir, notamment cette fameuse commission Vérité et Réconciliation, mais aussi une nouvelle constitution, et le fait de démarrer avec, de chaque côté de la table, des gens qui disaient « on a besoin de l'autre, donc on avance », de manière très pragmatique. Et donc, cette commission Vérité et Réconciliation qui a souvent été placée en exergue, c'est un deal politique. C'est un arrangement, c'est une négociation qui repose sur l'échange suivant, qui est, il nous faut la vérité pour la plupart des survivants, on veut savoir où sont ces corps, ce qui s'est passé avec tous ces opposants, etc. Qui a la vérité? La victime, quand elle est morte, elle ne va plus la donner, donc c'est le coupable, enfin, c'est l'accusé. Et pour que les accusés donnent cette vérité, il y avait comme un deal qui était fait, voilà les conditions, 4-5 conditions, si vous parlez, vous dites tout sur les crimes politiques, etc., vous pourriez avoir l'amnistie. C'était insupportable pour les vivants, pour les survivants, mais c'était en même temps, c'est comme ça qu'ils apprenaient comment et où retrouver les restes de XYZ. Ce qui est terrible dans le cas sud-africain pour moi, c'est que je pense que l'amnistie, elle était nécessaire à ce moment-là. Ça ne veut pas dire qu'on doit en rester là. Mais ce qui est terrible, c'est que le soir, par exemple, d'une déposition de la part d'un grand colonel qui avait expliqué comment il avait torturé pendant 30 ans des gens, il rentrait le soir chez lui, s'il avait l'amnistie, il était dans une super maison avec sa famille autour de lui, les survivants, les familles de rescapés rentraient dans leur township, toujours sans électricité, c'était très dur, ils l'ont accepté. Ces gens-là, j'ai un ami aux États-Unis qui a fait une étude longitudinale en allant voir les familles qu'il avait interrogées juste au moment de la procédure, les voir 10 ans après. Ces gens-là qui avaient accepté ce prix-là et le système, 10 ans après, parce que, et ils disaient, « they didn't deliver », ils avaient accepté l'amnistie en pensant qu'ils allaient avoir beaucoup d'avantages après, par exemple l'électricité dans les townships, pour parler de vraiment de besoins. Rien n'avait été fait 10 ans après. Donc l'amnistie, si elle s'accompagne, comme tout à l'heure je disais, d'une prise de soin de gens qui, au nom de l'État, montrent qu'on ne lâche pas les gens qui ont payé le plus grand prix, en fait, donc les survivants, les victimes, ça c'est... L'amnistie, alors là, elle fait faire des régressions sur le plan du support et de la confiance dans l'État.
Ça pose la question des formes de réparation, précisément, dont il était question tout à l'heure. Alors, peut-être avons-nous le temps de prendre une dernière question avant de laisser un mot de la fin à nos intervenants. Est-ce qu'il y aurait une dernière question dans la salle? Non? Ah, si, il y a une dame vers le milieu. Attendez, on va vous apporter un micro.
Vous savez, c'est retransmis en direct, donc pour que les internautes puissent vous entendre.
Du coup, je suis pas sûre de la poser. Je me demandais, du coup, pourquoi on n'arrête pas, pourquoi on n'intervient pas, par exemple, en Syrie ? Parce que c'est terrible, cette guerre qui n'en finit pas, et puis pourquoi d'une part on intervient, d'autre part non ? Enfin, c'est un peu obscur, même si ça paraît un peu enfantin comme question. Voilà.
Alors, je dirais que malheureusement, le timing n'était pas le bon pour la Syrie, pour les Syriens. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de courants politiques qui ont agi dans les démocraties, dans les pays qui pouvaient agir, pour qu'on n'agisse pas. Cette réalité, elle revient au lendemain du massacre chimique. C'est là où il y avait eu la ligne rouge, où on devait intervenir. Mais beaucoup de courants... Je peux vous donner par exemple en Grande-Bretagne ce qui s'est passé. La Grande-Bretagne a été la première démocratie à dire non à l'intervention parce qu'il fallait passer par le Parlement après ce qui s'est passé en Irak. Et on a tellement dit et raconté qu'on va nous refaire l'Irak, alors que la situation n'était pas comparable entre une invasion d'un État qui n'avait rien demandé, où la population n'avait rien demandé, et un tyran qui est en train de massacrer sa population qui demandait, qui appelait à la liberté suite à une révolution. Les deux situations. Mais on a tellement bassiné là-dessus, on a tellement raconté que, ils vont nous refaire aussi le coup de l'arme chimique et la fiole de Powell et autres, que ces courants politiques ont gagné. Je vais vous donner un nom qui ne vous parle peut-être pas, George Galloway. George Galloway qui travaillait en fait pour Russia Today. C'est le député britannique qui a œuvré pour voter contre l'intervention britannique en Grande-Bretagne. Et il a œuvré et la non-intervention est passée à 7 voix près. à 7 voix près. C'est ce qui a encouragé Obama à ne pas y aller après, alors qu'il n'était pas très chaud pour y aller aussi, Obama. Vous voyez, échaudé de l'Irak aussi, il ne voulait pas intervenir, sachant que personne ne voulait une intervention au sol, au moins qu'on arrête, je dirais, l'aviation du régime qui massacre les Syriens depuis maintenant 13 ans. Voyez. Mais, et ça, c'est effectivement, le politique aujourd'hui s'en mêle. Et je dirais, le récit dont on parlait fait qu'il n'y a pas eu une mobilisation aussi à la hauteur des massacres. Quand on manifestait contre les massacres en Syrie, on était quelques dizaines entre nous. Et que les démocraties, s'il n'y a pas, je dirais, un soutien derrière populaire, personne ne prendra le risque d'intervenir. Vous voyez, si vraiment il n'y a pas un soutien derrière. Or, ces récits, et d'où le problème de la désinformation aussi, qui arrive à faire basculer des opinions là-dessus. Ça a été très important dans le cas syrien. Et jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on vous répète, à chaque intervention, à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, on vous dit on ne va pas nous refaire l'Irak. Oui. Sauf que maintenant, les Syriens envient l'Irak. Si on regarde la situation, on est dans un pays de 21 millions d'habitants en 2011. Il y a 13 millions de Syriens qui sont en dehors de la Syrie. Oui. Le désastre de la non-action. Mais effectivement, ça se prépare. Et il faut une opinion publique dans les démocraties, parce que les démocraties sont tenues par les opinions publiques. Alors aussi, Obama ne voulait pas y aller pour plusieurs raisons. C'est qu'il négociait son accord sur le nucléaire avec les Iraniens. Les Iraniens alliés d'Assad lui ont dit « si tu veux ton accord, il ne faudra pas intervenir en Syrie ». Vous voyez, ça, c'est aussi la géopolitique qui intervient dans ce conflit.
Merci beaucoup. Alors, on revient un peu à notre point de départ, c'est que évidemment la justice internationale, elle peut pas s'affranchir de la géopolitique et des luttes de pouvoir et des rapports de force. Elle doit faire avec, elle doit composer avec, en quelque sorte. Donc, je disais que cette notion même est relativement récente. La demande de justice, pas du tout. C'est un invariant anthropologique, mais en tout cas d'essayer de pouvoir y répondre au plan international dans ces cas de conflit. Ça date plutôt de l'après-Seconde Guerre mondiale. Et depuis, on peut avoir l'impression que ça a progressé et puis que ça a reflué. Et donc, je ne sais pas si dans votre perception, à tous les trois, vous avez le sentiment qu'on est dans un moment où cette perspective d'une justice internationale plus crédible, plus légitime, est-ce qu'on progresse, est-ce qu'on régresse? Mais j'ai envie peut-être, en forme de conclusion, de vous demander... Qu'est-ce qui serait pour vous un signal positif? Enfin, qu'est-ce que vous aimeriez voir peut-être dans ce domaine dans les mois, dans les années qui viennent? Que serait pour vous une étape significative, une décision, quelque chose qui vous paraîtrait remettre les choses en bon ordre? Question très difficile, mais je disais, moi, quand je vois l'Afrique du Sud qui saisit la CIJ et que du coup, ça veut dire quelque part que le Sud global s'empare aussi de cette question de la justice internationale, ça pouvait me rendre plus optimiste. Est-ce qu'il y a une décision, une mesure, quelque chose que vous aimeriez voir advenir dans les mois qui viennent, Firas?
Alors, je dirais, malheureusement, le cas de l'Afrique du Sud, pour moi, il n'est pas très... il est même, je dirais, ambivalent. L'Afrique du Sud a maintenu ses relations avec le régime syrien depuis 2011. Elle ne les a jamais rompues. Et que si elle a saisi... la Cour de justice actuellement, c'est surtout par rapport à l'histoire du pays et des liens avec Israël qu'avait l'ancien régime d'apartheid.
Donc, c'est le retour de la géopolitique.
C'est le retour de la géopolitique, exactement, malheureusement. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on sorte de ce retour de la géopolitique et des lectures géopolitiques qui se font par rapport à la justice. Et qu'on ne soit pas... on ne ferme pas les yeux quand, effectivement, c'est un allié et qu'on les ouvre quand c'est un ennemi. C'est un vœu qui paraît aujourd'hui inatteignable, mais au moins au niveau de l'Europe, au niveau de l'Union européenne, qu'on mette en place, que le Parlement se saisit de ces questions et que on a beaucoup de pays européens ont fait déjà, ont adopté, ont réintroduit les notions de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans leurs droits nationaux. Comme la France aujourd'hui. Donc on peut saisir. Il faut qu'aujourd'hui, ça soit dans tous les pays européens, qu'on ne puisse plus être, je dirais, des terres d'asile pour les criminels de guerre, les criminels contre l'humanité. Si on y arrive au niveau de l'Union européenne, je pense que la justice fera déjà un grand pas, la justice internationale en tout cas.
Antoine Garapon.
Oui, moi, paradoxalement, je dirais, je repense à, vous citiez des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner, Hannah Arendt, dans un texte magnifique. Quand on poursuit la lecture de ce texte, Hannah Arendt dit, mais de toute façon, si on veut tout juger, on s'en sortira jamais. Il y a eu tellement de crimes. Et elle insiste sur la nécessité de recommencer, ce qu'elle appelle pour elle la natalité. Et moi, je dirais, ce qui nous manque aujourd'hui, ce qui nous manque au Moyen-Orient, ce qui manque dans d'autres régions de la Terre, c'est la perspective d'un recommencement. En Europe, la première chose après la chute du mur qu'a faite Helmut Kohl, c'est d'appeler Vaclav Havel pour lui dire « On est d'accord, on ne parle pas des Sudètes, on ne va pas relancer la question des Sudètes, pas plus que celle de la Silésie, etc. » Je vous rappelle que les Allemands ont eu 12 millions d'exilés intérieurs. Et donc, la contrepartie, c'était de faire l'Europe ensemble. C'était l'intégration européenne. Et ça me semble être ce dont nous manquons le plus. Oui, il faut de la justice. Oui, il faut des punitions. Oui, il faut un droit à la vérité qui n'est pas du tout antinomique, d'ailleurs, du tout avec la... Hein, c'est-à-dire que chacun a le droit à savoir ce qui est arrivé à ses proches. Mais n'oublions pas la politique et la perspective de... Et c'est peut-être ce qui manque le plus aujourd'hui.
Refonder. Valérie Rousseau.
Oui, refonder du commun. Oui, moi je pensais, ça va dans le sens de ce que Antoine Garapon vient de dire, peut-être qui me réjouirait, ça serait de voir petit à petit à différents niveaux, que ce soit au niveau national, européen ou international, des juges et des hommes d'État qui pensent à la question suivante, mais qu'est-ce que je veux comme société dans 30 ans ? Parce que tout est fort, évidemment, axé sur les intérêts du moment, mais je me disais, tiens, dans Platonov de Tchekhov, à un moment, il y a une scène où on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire, Nicolas ? Et l'autre acteur répond, enterrer les morts et réparer les vivants. Et on a besoin de la justice pour enterrer les morts, il faut les retrouver, on a besoin de la justice pour réparer les vivants qui sont fragmentés, mais je pense vraiment que s'il y a des jeunes dans la salle ou des enfants que ces jeunes pourront avoir qui pensent en se disant mais quelle génération on veut, quelle Europe on veut, quelle Syrie on veut, dans 30 ans, là je crois qu'on aura gagné quelque chose.
Un grand merci à tous les trois, Antoine Garapon, Valérie Rousseau et Firas Contard. Voilà. Je vous renvoie à leurs écrits qui sont nombreux, si vous voulez en apprendre plus sur la justice internationale.
Merci beaucoup Anne-Lorraine, merci à vous public aussi d'être venus aussi nombreux. Merci à nos invités pour leur présence lors de ce débat et merci à notre équipe aussi en régie qui a non seulement assuré le direct, mais a assuré aussi le replay que vous pourrez retrouver dans quelques temps sur notre site internet. Sachez que la programmation culturelle de la BPI, c'est tous les lundis, ici même à 19h. Donc l'actualité dans sa globalité littéraire, éditoriale, géopolitique. Et vous pouvez retrouver toute notre actualité sur notre web magazine Balise, notre site internet et notre replay. Merci à vous, très belle soirée et à bientôt.